Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension.
Du suspense. De l'émotion. De l'humour. Sine qua non, du cinéma sinon rien.
Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Campus Grenoble 90.8 pour le Sine qua non du mois de mars. Au programme ce mois-ci, des films sortis entre février et ce début mars. Des films que vous pouvez normalement encore voir dans les salles grenobloises et de l'agglomération. Et à mes côtés, pour commenter un petit programme éclectique de 10 films, Florence.
Bonjour.
Jean-Pierre.
Bonjour toutes et tous.
Et Adrien nous rejoindra en cours de route. Commençons sans plus attendre. Donc avec ce programme que je n'ai pas classé pour une fois dans l'ordre chronologique des sorties, mais vous verrez, il y a un petit panachage des genres. On commence avec un thriller français, c'est Exfiltré d'Emmanuel Hamon.
T'es le seul à pas être au courant comme d'hab.
Quoi, qu'est-ce qu'il y a?
Ben Sylvain, l'infirmier, sa femme s'est barrée en Turquie avec son fils. Ton fils est toujours là-bas?
Non.
Il pourrait pas aider?
Elle a complètement pipoté. Maintenant elle est là, quelque part avec son môme.
Est-ce que la nana lui envoie une photo entre-temps?
Une, mais bon...
Copie les coordonnées GPS dans Google. Ça dit quoi?
On l'a localisé. C'est Drac.
Bon, j'ai pas de bonnes nouvelles. On n'a pas de service actif en Syrie en ce moment. Faut savoir une chose. Autant il y a des types qui sont partis là-bas, qui se rendent compte que la réalité est pas là à hauteur du prospectus, et ils rentrent. Les femmes, par contre, elles reviennent pas. Pas une seule.
Mais le petit, c'est bien, faudra le former.
Il pointe là, pointe là.
Sylvain, j'espère que tu m'entends. Mais on est à Raqqa et j'ai besoin d'aide.
Je vais aller taper directement au ministère.
Non, mais la Syrie, on peut rien faire.
Je voudrais juste poser une question.
Calmez-vous.
Vous pouvez nous aider ou pas?
Je suis syrien, je voudrais l'asile politique en France.
Gabriel, c'est toi la DGSE?
Ce que tu fais nous intéresse. Les réseaux à Raqqa.
Il y a 120 km, plus des patrouilles. Et la frontière, je l'ai passée. C'est très risqué.
Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire là?
Bah, trouver l'argent déjà.
Vous savez qui vous avez chopé? C'est un héros.
Ça se trouve, elle est en train de nous trahir.
Maintenant, appuie!
Tu te rends compte que si ça merde, tu as deux morts sur les bras?
Exfiltré, donc, c'est un premier film, premier long métrage d'Emmanuel Hamon, qui a été assistant réalisateur de metteurs en scène comme Chéreau ou Piala, qui s'est consacré ensuite en tant que réalisateur au documentaire politique, social, historique. Et là, donc, c'est sa première fiction, son premier long métrage de fiction, pour lequel il s'intéresse à un sujet malheureusement d'actualité, hein, le départ de certains Français en Syrie. Là, on est en 2015 et une jeune femme, Faustine, assistante sociale, part avec son fils de 5 ans, abandonnant son mari. Elle ne lui donne pas la vraie raison de son départ, mais le film commence là-dessus. Elle est censée partir en vacances en Turquie. Et puis, rapidement, on apprend qu'elle est passée de la Turquie en Syrie. Apparemment, c'est inspiré d'une histoire vraie, d'après un carton qu'on a au début du film. Moi, j'ai eu du mal à croire entièrement à cette histoire parce que tout arrive très vite, trop vite. Disons qu'il nous manque quelques explications. On ne comprend pas du tout pourquoi cette jeune femme, qui a l'air, par ailleurs, équilibrée, d'avoir une vie de famille harmonieuse, qui a un petit garçon de 5 ans, décide de partir comme ça en Syrie. D'autant qu'elle déchante assez rapidement là-bas, donc on se demande ce qui l'a motivée. On a du mal à croire aussi à toute cette exfiltration, alors qui est assez efficace hein, au niveau du rythme, qui tient en haleine, parce qu'on s'attache quand même un petit peu au personnage. Mais on a du mal à croire vraiment à la manière dont elle est montée très rapidement. C'est vrai que chose qui paraît aussi un petit peu invraisemblable pour l'exfiltré, son mari se fait aider de son chef de service à l'hôpital, puisqu'il travaille dans un hôpital, dont, comme par hasard, le fils travaille dans une ONG et a des réseaux en Turquie et en Syrie. Donc Donc voilà, j'avais pas mal de doutes sur la crédibilité de cette intrigue qui, alors apparemment, est tirée d'une histoire vraie. Donc bon, on veut bien admettre tout ça et y croire. Mais il y a trop d'ellipses, à mon sens, pour qu'on arrive vraiment à comprendre tous les personnages et surtout qu'on arrive à comprendre cette femme incarnée par Gisca Calvanda, qui était l'une des découvertes de Divine. Je vous rappelle ce film sur les banlieues qui avait eu la caméra d'or à Cannes. Voilà, à ses côtés, Swan Harlow, Finnegan Oldfield, qu'on avait déjà vu dans Cowboy sur le même sujet, et Charles Berling, donc, pour le casting. Jean-Pierre.
Oui, ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est tiré d'une histoire vraie ou de 10 ou de 100 histoires vraies qui se ressemblent beaucoup. Alors, ce qui est étonnant dans ce film, c'est qu'effectivement, Emmanuel Hamon vient du documentaire, mais là, malheureusement, on voit pas qu'il vient du documentaire, parce que moi, on n'y croit pas du tout à cette histoire. Toutes les situations paraissent parachutées, paraissent écrites à l'avance, et c'est bien dommage, parce que, effectivement, c'est un sujet intéressant, c'est un sujet d'actualité, et même d'actualité brûlante, avec le retour ou pas des femmes et de leurs enfants, surtout. Mais là, malheureusement, on comprend pas effectivement pourquoi Faustine part. On la prend alors qu'elle est sur le point de prendre l'avion. On sent que ses rapports avec son mari sont pas excellents, mais c'est tout. Et ce qui aurait été intéressant dans ce film, c'est qu'il soit vraiment axé sur le parcours de cette femme, sur ses raisons, et puis après, pourquoi elle décide de s'enfuir. Mais là, pas du tout. Elle est presque au second plan par rapport aux efforts de son mari et du père, c'est son chef de service, mais c'est son père en fait aussi, qui est un grand médecin, qui essaye de la faire revenir avec toutes ces histoires de bureaux, qu'on passe d'un bureau à un autre, la DST, etc., qui peut rien faire. On a déjà vu ça 100 fois et c'est malheureusement un film qui vous apprend rien.
Bon, bah, vous voyez qu'on n'est pas très élogieux sur ce film, mais si vous voulez tout de même le découvrir, Exfiltré d'Emmanuel Hamon passe au Cirex et au Pathé Échirolles. On enchaîne avec un film historique. Il s'agit de Mary Stuart, Reine d'Écosse, de Josie Rourke.
Mary Stuart est condamnée à mort. Sur ordre de notre souveraine Élisabeth, reine d'Angleterre.
Comment en êtes-vous arrivé là?
J'ai eu des nouvelles. Le roi François est mort. Votre cousine Marie est revenue pour régner sur l'Écosse. C'est une femme redoutable, madame.
Donc elle se prépare à la guerre?
Pas du tout. Certes, je commande des armées, mais dites à ma cousine que nous prions pour rester en paix. J'espère que nous nous rencontrerons pour pouvoir sceller nos destins.
Regardez la vérité en face, madame. C'est une prétendante à votre trône.
Je devrais détrôner une reine qui m'est apparentée.
Une guerre civile éclatera soit là-bas, soit ici.
Un fléau s'est abattu sur notre terre. Une femme qui porte une couronne.
Qu'en dit son frère ?
Son allégeance nous est acquise.
Ils n'ont pas d'appétit pour la guerre.
Alors ouvrons-leur l'appétit.
Ce que les hommes sont cruels. J'essayais simplement de faire l'unité de ce pays. Mais ils veulent s'emparer de ma couronne. Une meurtrière, une traîtresse. Et reine. Mais je serai la femme qu'elle n'est pas. Nous mettons au monde un héritier au trône d'Écosse et d'Angleterre. Notre rencontre est secrète. Si vous en parlez, je nierai tout. Acceptez d'être la marraine de mon fils. Acceptez d'être ma sœur.
Mary Stuart, Reine d'Écosse, c'est le premier film de Josie Rourke, qui était directrice artistique de théâtre. Elle s'est inspirée d'un ouvrage avec son scénariste, d'un ouvrage réalisé par John Guy, qui est une biographie de Mary Stuart, qui se démarque des autres ouvrages sur elle, qui montre un autre aspect de sa personnalité, parce qu'en général, elle a souvent été considérée comme une monarque assez faible, aux mœurs légères. Et apparemment, l'ouvrage de John Guy montre une autre facette. Une femme qui a essayé de régner sur l'Écosse correctement, qui a essayé de s'imposer dans un monde d'hommes. C'est ce qu'on découvre dans ce film, donc dont ce serait l'originalité. C'est un personnage qui a beaucoup inspiré les réalisateurs. Déjà, j'ai une petite liste là qui commence par un Mary Stuart de John Ford en 1936. Le dernier en date que j'ai répertorié, c'est le film de Thomas Humbach, Marie, Reine d'Écosse, en 2014. Voilà, enfin, il y en a eu beaucoup et on comprend parce que c'est un personnage qui a eu un destin assez particulier, hein, marié au roi de France à 16 ans. C'était François II, si je ne m'abuse. Jean-Pierre va me corriger.
François II,
si
non, tout à fait.
Mais qui est mort au bout d'un an de règne seulement. Donc en 1560, il est mort. Et en 1561, elle est revenue en Écosse. Elle était une héritière légitime du trône d'Écosse. Donc elle a essayé de reprendre le pouvoir. Et ce n'était pas chose facile à l'époque dans un monde d'hommes. Donc bon, déjà, les femmes avaient la chance de pouvoir être souveraines en Angleterre et en Écosse, pas en France, mais on voit bien les bâtons dans les roues que ces femmes de pouvoir avaient. On voit ça aussi avec le personnage d'Elisabeth Ier, puisque le film est vraiment centré sur ces deux femmes et sur leur relation aussi, un petit peu plus sur Marie Stuart que sur Elisabeth Ier quand même. Mais on voit bien la rivalité, puisque Marie Stuart pouvait être aussi une prétendante au trône d'Angleterre, donc Elisabeth se méfiait d'elle. Le film explore aussi cette relation, cette rivalité, je trouve ça assez intéressant. On a deux actrices vraiment impeccables pour les interpréter, Saoirse Ronan qui vient de Game of Thrones, et Margot Robbie qui interprète, elle, Elisabeth. Donc moi, c'est un film qui m'a beaucoup plu, que j'ai trouvé très beau, très bien réalisé. Alors, je sais qu'on a pu lui reprocher sa théâtralité. Moi, je ne trouve pas du tout. Je trouve qu'au contraire, il y a un bel effort sur les décors, les costumes, la manière de mettre en scène la cour d'Écosse, les scènes de spectacle notamment. Je les trouve assez belles. J'aime bien les deux interprètes. J'aime bien ce film qui parle de femmes, de pouvoir de femmes menacées par les hommes, ainsi que de leur rivalité, puis leur rapprochement. Donc, voilà, c'est un de mes films préférés du mois. Florence.
Moi, je l'ai quand même bien aimé. Hein. Donc, peut-être un petit peu moins que toi, mais c'est quand même celui que j'ai préféré aussi, enfin, je pense, ou à peu près. Et donc, en effet, j'ai trouvé que ce qui était intéressant, c'était de voir ce côté, dans ce monde de patriarcat, comment elles font pour réussir à s'en sortir. Et également, de voir un peu tous ces impacts. Et, enfin, bon, bref. Pardon, je perds le fil. Après, ce que j'ai trouvé bizarre, c'était des fois les mix des codes, où par exemple, à la fois ils vont être très dans la réalité du passé avec voilà, ces codes du patriarcat, mais par contre, ils vont mettre un homme noir à la cour qui est donc un noble et qui va pouvoir séduire toutes les femmes blanches là-bas. Enfin, alors qu'à l'époque, moi je trouve que c'est quand même, ça m'étonnerait que ça ait eu lieu.
Enfin, oui, voilà. Donc il y a plein de mix. Un quota d'acteurs à placer.
Ça sent vraiment le quota, voilà, justement. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage parce que s'ils respectent d'un côté les codes, enfin bon, bref. Ça donne un anachronisme qui est un peu étrange, je trouve. Donc moi, je trouvais ça bizarre. Après, j'ai trouvé que c'était un film qui était quand même très, très bavard. Donc c'est peut-être ça que vous vouliez dire par le côté théâtral. Mais bon, en même temps, on avait besoin d'avoir le contexte, d'avoir toutes ces explications.
Ça m'a pas gênée dans le sens où j'ai trouvé que les dialogues étaient intéressants et montraient bien les relations entre les personnages, mais bon.
Et je trouvais que ça allait vite. Hein. Des fois, j'avais quand même un peu du mal à suivre quand on voyait justement tous les jeux de pouvoir, etc. Moi, je m'y perdais un petit peu. Donc, bon.
D'accord, bon.
Voilà, bon, ça c'était moi. Par contre, en effet, j'ai trouvé que la mise en scène était très soignée. Il y a notamment la scène dans les étendoirs à linge que j'ai trouvé magnifique avec les deux reines, avec les jeux de lumière qui passent derrière les draps.
C'est leur seule et unique rencontre.
Voilà, tout à fait. Donc, et en plus à moitié caché. Après, bon, pourquoi est-ce que c'est dans une espèce de laverie et pas une armurerie? Bon, on va voir, voilà. Mais voilà, donc globalement, moi je pense que c'était quand même un bon film, mais... Pas
bon,
forcément.
Un petit bémol par rapport à moi. Jean-Pierre.
Non, moi je trouve que c'est un excellent film. C'est même mon film du mois. C'est vrai que j'adore les films historiques, mais là il réussit très bien à mêler les histoires plus ou moins intimistes de rapports entre ces rapports houleux entre ces deux femmes, qui étaient deux demi-sœurs effectivement, et qui est dans l'histoire, parce que moi j'aime bien toujours revenir à l'histoire vraie. Elles se sont jamais rencontrées en fait. Elles s'écrivaient, mais elles se sont jamais vues. Et là, c'est magnifiquement interprété, c'est magnifiquement filmé, effectivement, dans des décors réels, en Écosse, une Écosse très, très sauvage, très brumeuse, dans des châteaux où on a vraiment froid avec les personnages, quoi, des châteaux lugubres et noirs. Et on comprend très bien la rivalité de l'histoire, hein, et surtout l'histoire qui a duré des siècles de rivalité entre l'Écosse, qui était un pays sauvage, qui était un pays qui voulait garder son indépendance, et puis l'Angleterre, qui était la très grande puissance montante, qui commençait précisément à monter jusqu'à dominer le monde au XIXe siècle, avec Elisabeth Ier, qui a été le plus long règne, puisqu'elle a régné 44 ans. Donc tout ça est très beau, tout ça est très fort. La théâtralité, moi, ça ne me gêne pas. Je pense que d'ailleurs, il y a une pièce de Shakespeare, je ne peux pas l'affirmer, de Marie Stuart, qui n'est pas une de ses pièces les plus connues, mais enfin, il en a tiré une pièce. Donc je vois pas ce qu'on pourrait reprocher à ce film, sauf effectivement si comme moi on est passionné d'histoire, on peut dire, et je vais le dire quand même, que apparemment elle est guillotinée, Marie Stuart. C'est pas un scoop puisqu'on la voit dès la première scène. Et en réalité, on a l'impression que ça se fait presque tout de suite, au bout de quelques mois. En réalité, elle a passé 18 ans en prison sous le règne d'Elisabeth avant d'être exécutée de manière horrible à la hache. Il a fallu que le bourreau s'y apprenne à plusieurs fois. Bref, on voit pas tout ça dans le film.
Alors c'est ça, peut-être ça manque pas forcément.
C'est peut-être un, c'est peut-être
effet,
un peu dommage.
On a l'impression qu'elle est arrêtée.
Mais arrêtez les filles avec votre cette sensibilité là. Non, non, c'est un très beau film qu'il
faut
voir.
Peut-être,
absolument.
Peut-être une nouvelle version de Marie Stuart par Jean-Pierre.
J'y pensais.
On pourrait faire un autre film dessus, on n'est pas à ça près. En tout cas, si vous voulez découvrir celui-ci, vous voyez qu'on est plutôt positif. C'est Marie Stuart, Reine d'Écosse de Josie Rourke et il est diffusé à la Nef. On continue avec une histoire de femme. Alors rien à voir, une femme de notre époque, c'est Juliette Binoche dans le film de Safi Nebbou, Celle que vous croyez.
Vous êtes sur les réseaux sociaux, docteur? Pour des gens comme moi, c'est à la fois le naufrage et le radeau. On surnage, on le virtuel.
Ça va, Claire? T'as des soucis?
Rien, mais c'est un jeune qui s'emballe. Je pouvais pas lui refuser cette photo.
Pourquoi?
Ça m'excitait, je crois. J'allais donner un vrai visage à Clara Antounès. C'est Clara.
Elle a une voix très jeune.
Et ça ne vous faisait rien de savoir qu'Alex avait dans la tête une autre femme?
Je faisais pas semblant d'avoir 24 ans. J'avais 24 ans.
Je crois qu'il nous arrive quelque chose.
Toi, t'as rencontré quelqu'un.
Je remonte tout doucement sur ton sein.
Je me laissais aller jusqu'à me sentir plus Clara que Claire.
Ça me rend fou, là. Clara, j'ai besoin de te voir.
Qu'est-ce que vous cherchez? Il veut notre vie.
Non, pas une autre vie, la mienne. Enfin.
Je peux pas continuer à vous aider si vous ne dites pas la vérité.
Celle que vous croyez, c'est le septième film de Safi Nebbou, réalisateur français, donc à qui l'on devait notamment Dans les forêts de Sibérie. C'était son dernier film sorti en 2012. Là, c'est l'adaptation du roman de Camille Laurence, du même titre, Celle que vous croyez. Donc, pour vous résumer l'intrigue, c'est l'histoire de Claire, cinquantenaire, professeure de littérature à l'université, qui a deux grands garçons, qui est séparée de son conjoint, qui l'a quitté pour une plus jeune. Jusque-là, tout est classique. Qui a un jeune amant, Ludo, qui la quitte. Enfin, on comprend que c'est un amant de quelques soirs, elle n'a pas l'air plus amoureuse que cela. En tout cas, au moment où il la quitte, elle décide de se créer un faux profil sur Facebook pour essayer de l'espionner. Et puis en l'espionnant, elle s'intéresse au profil d'un de ses amis, qui s'appelle Alex, qui est incarné par François Civil, qu'on voit beaucoup en ce moment dans le cinéma français et dans les séries françaises, dans 10% notamment. Elle tombe sous le charme de ce jeune homme et du coup, elle le contacte et elle le séduit avec son faux profil, évidemment sur lequel elle fait apparaître qu'elle a 25 ans, sur lequel elle met une photo d'une jolie jeune femme. Et puis donc se crée une relation virtuelle entre eux, et une relation virtuelle qui devient aussi une relation téléphonique. Les deux semblent séduits l'un par l'autre, mais bon, vous imaginez, je vais arrêter là pour le résumé, vous imaginez que les choses se compliquent lorsqu'il commence à projeter de se voir. Évidemment, elle ne veut pas se montrer sous son vrai jour, sous sa vraie apparence. Pourtant, il y a pire quand même comme cinquantenaire que Juliette Binoche, mais bon. Donc voilà une intrigue intéressante, un peu déjà vue. On a déjà vu des relations virtuelles, notamment dans Her avec Joaquin Phoenix. Il y en a d'autres, mais c'est assez intéressant parce que d'actualité, parce qu'on parle beaucoup des réseaux sociaux sur Internet aujourd'hui. Maintenant, moi, j'ai quelques réserves sur le film. Je trouve que toutes les situations ne sont pas crédibles. On a une sorte de tension de thriller parce que on se demande comment ça va évoluer. On voit bien qu'elle est prise vraiment dans cette fiction et on se demande comment elle va arriver à s'en sortir. Mais en même temps, je trouve qu'il y a plusieurs scènes qui sonnent faux. Voilà, j'ai eu un petit peu de mal. Ça m'a sorti du film, sur lequel je suis donc pas totalement négative. J'aime bien aussi le personnage de Nicole Garcia qui joue sa psy, à qui elle raconte toute l'histoire en flashback finalement. Mais bon, voilà, je suis assez mitigée sur ce film. Jean-Pierre.
Je suis mitigée comme toi, mais là, tu vas me dire qu'il ne faut pas raconter la fin, ce qui est un peu dommage, parce qu'il n'y a pas qu'un seul film, il y en a deux, en fait. Parce qu'au milieu du film, ou un petit peu après le milieu, la situation change totalement, avec un espèce de, je peux le dire quand même, un espèce de fantasme vécu par Juliette Binoche, j'en dirai pas plus. Et c'est là où ça sonne particulièrement faux. Parce que si on en était resté à cette relation virtuelle, qui aurait pu tenir très bien, à mon avis, grâce à sa prestation qui est tout à fait excellente, mais Juliette Binoche, on l'aime, on l'adore, on va pas dire le contraire, ça aurait pu faire un film, justement, effectivement, qui aurait surfé un peu sur la psychologie, mais sur l'actualité de ces réseaux comme ça, où on peut se cacher derrière un pseudonyme ou changer d'âge ou tout ce qu'on voudra. Mais j'ai trouvé que la fin était très à la fois téléphoné et sonné faux, et en voulant revenir un peu sur le début, le réalisateur a l'impression de ne pas savoir comment terminer son film. Et ça, j'ai trouvé un peu dommage. Ce que j'ai trouvé un peu dommage, et ce que toi, tu as bien aimé, c'est effectivement toutes les longues séquences qui hachurent le film, avec la psy jouée par Nicole Garcia, et qui, moi, me semble, ou me paraissent en tout cas, totalement inutiles. Donc, je suis plutôt négatif malgré tout, même si c'est vrai qu'en le voyant au premier degré, bon, j'ai pris un certain plaisir, mais grâce à Juliette Binoche, bien entendu.
C'est ça, c'est un film devant lequel on passe un bon moment, mais on se rend compte quand on y repense après que tout ne tient pas, et voilà, ça laisse pas un souvenir impérissable. Bon, si vous voulez quand même le découvrir, c'est Celle que vous croyez, de Safine Bou, qui passe au club. On enchaîne avec un autre film français, c'est le nouveau film de François Ozon, dont on a beaucoup entendu parler, surtout avec l'actualité du procès du cardinal Barbarin, enfin et de sa condamnation surtout. C'est Grâce à Dieu, de François Ozon.
Je m'appelle Alexandre Guérin, père de 5 enfants. Je découvre il y a un mois, par hasard, que le père Prénat est revenu sur la région de Lyon, comme avant.
Il t'a vu?
Oui, je sais. Pourquoi cet homme s'occupe-t-il encore d'enfants?
Les samedis après-midi, il m'emmenait dans le local photo de la paroisse. Il me disait, c'est notre secret.
Je suis horrifié par ce que vous me dites.
Enfin, moi, ce que j'attends, c'est une sanction de l'Église à son encontre.
Je vais être clair avec vous, le père Prénat restera toujours prêtre.
Vous avez une idée d'autres victimes qui pourraient témoigner?
Mais je suis sûr qu'il en existe.
Il y a une plainte qui a été déposée contre Prénat.
Putain, c'est pas vrai. Mais regarde, il est encore avec des gosses. Je croyais qu'il était mort. Il va falloir faire quelque chose.
Il faut réunir d'autres victimes.
J'attends depuis toujours ce moment que je puisse enfin tout raconter moi aussi.
Mais c'est important. Est-ce que vous voulez porter plainte contre Bernard Prénat?
Ouais, je porte plainte.
Nous sommes confrontés à des faits anciens et grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits.
Vous vous rendez compte de la violence de ce que vous venez de dire? Grâce à Dieu, ça veut dire heureusement.
Moi, je voudrais vous dire que je passe ça contre l'Église, mais pour l'Église.
Maman, tu te souviens? Un jour, en sortant du catéchisme, je t'avais dit que Prénat m'avait embrassé.
Pourquoi vous n'étiez pas allé voir la police?
Peut-être qu'on aurait dû.
Ça fait plus de 30 ans, Alexandre.
Maman, il s'agit d'aujourd'hui, du père Prénat qui est toujours en contact avec des enfants.
Tu as toujours été doué pour remuer la merde.
Grâce à Dieu, donc le 19e film, si j'ai bien compté, de François Ozon. Après des films très légers qui n'ont rien à voir avec ça, hein, comme Potiche ou Huit Femmes. Après des films un peu plus historiques comme France, hein, qui était sorti en 2016. Ou des films un peu fantaisistes comme L'Amant Double en 2017. François Ozon a failli réaliser un documentaire et puis finalement il en a fait une fiction, mais très documentée. C'est donc Grâce à Dieu qu'il a tourné en partie à Lyon, hein, sur... une affaire de pédophilie dans l'église, l'affaire du père Prénat, qui a été caché par l'église pour que ça ne fasse pas scandale, alors qu'il a fait beaucoup de victimes dans les années 80-90. Les premières agressions sexuelles remonteraient à 1986. Et le problème, c'est que les victimes se sont manifestées assez tard, à un moment où il y avait prescription. Elles ne pouvaient donc pas porter plainte contre le père Prénat. En tout cas, ça a été le cas de la première victime qui a parlé, qui s'appelle dans le film Alexandre Guérin. Son nom est échangé, c'est un nom d'emprunt. Même si François Ozon s'est inspiré précisément de l'histoire de victime qu'il a rencontrée, interviewée. Donc moi, j'ai trouvé ce film excellent. Je pense que c'est un de mes préférés du mois. Déjà parce que les interprètes sont tous très justes, hein, que ce soit Melville Poupeau, Denis Ménochet, soit Narlo qui joue les principales victimes. Il y a Eric Caravaca aussi qui est assez en vue, qui est très bien. Ensuite parce que bah, c'est très, très juste, très documenté. Et puis, j'ai trouvé qu'il rentrait assez bien dans chaque histoire personnelle. C'est pas qu'un film judiciaire, c'est un film qui montre bien les blessures de chaque homme, la manière dont il a vécu avec, ou dans la manière dont il a réussi ou pas réussi à vivre avec. Et ça, c'est assez intéressant. Adrien nous a rejoint entre-temps. Adrien, tu l'as vu, grâce
Bonjour.
À Dieu.
Oui, je l'ai vu. Alors avant de dire toute chose, il faut que je vous dise que François Ozon est un de mes réalisateurs préférés. C'est le réalisateur qui m'a appris à regarder des films. J'ai regardé 15 fois Goutte d'eau sur Pierre Brûlant, 1000 fois 8 femmes. Et du coup, je vais voir chacun de ces films avec une très grande appréhension. J'ai toujours peur d'être déçu. Et là, je n'ai pas été déçu. J'ai trouvé ce film exceptionnel, incroyable, merveilleux, génial. C'est un film qui se base sur une affaire judiciaire, mais la manière dont il parle de la communauté chrétienne bourgeoise lyonnaise et dont il filme cette communauté et dont on s'immisce dans cette communauté, c'est vraiment merveilleux. Et dont le relais est passé entre Melville Poupeau, Denis Ménochet et Swann Harlow en montrant différentes personnes qui vivent dans cette communauté. Du coup, Melville Poupeau au centre-ville de Lyon, Denis Ménochet dans les Monts d'Or et Swann Harlow qui fait partie de la famille la plus populaire dans une banlieue avec qui ça ne va pas très bien avec sa copine, est parfaitement décrite. Il y a quelque chose à laquelle je n'avais jamais pensé aussi, c'est que le silence de l'église en fait et des victimes, c'était pour protéger la communauté. Et en fait le film il pose la question essentielle, j'ai l'impression, de est-ce qu'il vaut mieux protéger l'individu ou la communauté en fait, parce que la loi du silence a fait que la communauté était protégée plutôt que les individus. J'ai adoré la manière dont les débats étaient filmés. À mon avis, Ozon réussit ce que Robin Campillo a raté dans 120 battements par minute. La manière dont l'association se constitue et dont les débats sont faits autour des tables chez les différents habitants, chez les différents protagonistes, est vraiment merveilleux. Et ensuite, le dernier point positif, mais il y en aurait 1000, c'est la manière dont François Ozon filme Lyon et filme la ville. C'est vraiment merveilleux, la manière dont il décrit les rues, dont il filme la place Bellecour, c'est sublime, il a une vision merveilleuse.
Mais Lyon est sublime,
oui, mais
quelle que soit la manière dont il filme cette ville.
Oui, mais c'est bien loin du film dossier habituel, il a vraiment une vision artistique de réalisateur, c'est un immense film, et en plus je l'ai vu dans une salle complète un dimanche après-midi au Méliès. Et tu vois bien que c'est un film qui touche largement plus que le public cinéphile habituel. C'est grandiose. Il faut absolument aller le voir.
Bon, bah déjà, 2/2 pour Grâce à Dieu, Florence.
Bah, c'est dur de passer après vous deux. mais je vous suis. Donc, du coup, voilà, pour pas être redondant, c'est ça que je veux dire.
Comment surenchérir sur Adrien après merveilleux, sublime.
Voilà, donc j'ai trouvé en effet que ça sonne vraiment très juste, qu'il y a une très belle brochette d'acteurs avec des acteurs qu'on trouve dans différents registres et ils sont tous très bons. J'ai bien aimé également le choix du fil conducteur où on voit vraiment que c'est quelqu'un, la première victime qu'on voit dans le film. Et vraiment dans le système catholique, oui. Et on voit vraiment ce côté-là à travers ces échanges de mails avec les personnes importantes des cathos lyonnais. Et on voit vraiment comment lui, il essaie de faire ça dans les règles de l'art pour pas abîmer justement l'image de l'Église, etc. Et puis que face à ce mur et ces mensonges qu'on lui oppose, alors que tout le monde reconnaît les faits, etc., ce silence face à lui, ça va en arriver à une plainte classique et puis être pris dans les médias en masse. Et du coup, tout ça aurait pu être évité, en fait.
Oui.
Donc ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Après, moi, il y a peut-être juste les flashbacks que j'aurais fait sauter puisque l'histoire était déjà très bien ficelée comme ça et j'ai trouvé ça inutile.
Ouais, c'est vrai, on n'en a pas parlé des flashbacks sur les petits garçons. Et avec
c'est pas la
peine.
Prêtre
ventripotent, c'était pas forcément...
Voilà, on sait que c'est horrible, on n'a pas besoin de le voir, ouais. Ça, je trouve.
Oui, certes.
Voilà, mais sinon, donc vraiment un très bon film.
Ouais. 3/3 pour Grâce à Dieu. Allez, Jean-Pierre, joueras-tu les troubles faits?
Non, je ne suis pas un trouble fait. Je vous ai écouté avec attention. Vous avez parlé avec intelligence, comme d'habitude, de ce film. Je suis d'accord avec vous. En gros, pour moi, c'est quand même malgré tout pas un grand film. C'est quand même malgré tout un document ou un documentaire reconstitué. Tu as dit qu'il voulait faire un documentaire a priori. On le sent quand même dans ce film. C'est un film qui est assez étonnant parce qu'il rentre dans le lard d'une actualité
qui est brûlante, avec des procès qui ne sont pas terminés, aussi bien du cardinal Barbarin que même s'il a eu 6 mois avec sursis, bon, il va peut-être être démis par le pape, on n'en sait rien, mais enfin, l'histoire court encore, si je peux dire. Et effectivement, tout ça est très bien monté. Moi, je n'ai pas été enthousiasmé, parce que c'est une histoire bon, bien connue, que tous on a plus ou moins connue. Je n'ai pas été vraiment tripoté par le curé du lycée Champollion. Un petit peu quand même. Mais enfin, bon, ça ne m'a pas traumatisé. Donc, c'est un film, effectivement, à voir. Mais encore une fois, pour qui veut rentrer dans le document, dans la réalité de ce qui s'est passé, un grand film de cinéma avec Lyon filmé qu'on ne l'a jamais filmé, bon, j'irai malgré tout, mon cher Adrien, pas jusque-là.
Bon, on le recommande quand même, Grâce à Dieu, de François Ozon, que vous pouvez voir au Pathé ou au Méliès. On enchaîne avec encore un film français et encore un premier film, on en a plusieurs dans ce programme, c'est Deux fils de l'acteur français Félix Moati.
Bon, quoi, qu'est-ce qu'il y a ?
Papa, il a arrêté le cabinet, il n'est plus médecin.
Attends, qu'est-ce que tu racontes, t'es bourré toi ou quoi ?
Non, j'ai bu qu'un verre.
Les enfants, j'ai une nouvelle à vous annoncer. J'ai abandonné mon cabinet. Je me suis consacré uniquement à l'écriture.
C'est très bien, papa.
J'ai rencontré une jeune femme qui trouve que j'ai un style qui n'est pas sans rappeler Tolstoï. Et me voilà pour la première fois devant cette feuille blanche, 80 grammes. Je tremble d'y mettre mon empreinte.
Ok, c'est un grand malade.
Je serai le plus grand psychanalyste du monde.
Ok, tu le prends.
T'es censé écrire une thèse en psychiatrie depuis 2 ans.
Vous avez aucun respect pour mon chagrin ou quoi ? Vous savez que j'ai perdu la femme de ma vie quand même ?
Qu'est-ce qui s'est passé avec Suzanne ?
Elle te manque ?
Non. J'ai un petit frère de 13 ans complètement alcoolique. Eh, tu sais ce qu'on va faire ? On va prendre un shot toutes les 10 minutes et au bout du 5e, on va en prendre un toutes les 5 minutes.
Tu vois, avant, il était fort. Un peu comme Poutine.
Comme Poutine ?
Oui, le russe, là, tu vois.
Tu veux qu'on sorte ensemble ?
Non. Yvan traverse un épisode compliqué de sa vie avec votre cancer.
Je n'ai pas de cancer. D'où vous envoyez une lettre de refus à mon père, vous n'êtes pas censé être ami ?
Le roman de votre père, vous l'avez lu ?
C'est si mauvais que ça.
Vous voulez un café ?
Non, c'est pas Tolstoï, quoi. Ton frère écrit des poèmes érotiques qu'il distribue à sa classe. Qu'est-ce qui vous prend tous les deux ?
Deux fils, premier long métrage donc de l'acteur français Félix Moati, que l'on avait découvert entre autres dans Hippocrate avec Vincent Lacoste, qu'il fait tourner ici. Les deux fils, ce sont donc Vincent Lacoste, fils aîné, étudiant en psychanalyse, et puis en psychologie plutôt, et puis Mathieu Capella qui joue le petit frère qui traverse une crise mystique, qui se tourne vers Dieu, petit frère qui est collégien ou lycéen. Le père, c'est Benoît Poulvorde, médecin, donc comme vous l'avez entendu dans la bande-annonce, qui a quitté son cabinet pour écrire. Mal, vous l'avez compris aussi d'après la bande-annonce. Alors c'est vrai qu'elle est assez attrayante, elle donne envie. C'est un film qui est quand même assez sympathique, qui a quelques situations cocasses, qui font sourire. Alors c'est pas une comédie non plus, il faut bien le dire, hein. Le fond est quand même assez noir. C'est quand même des personnages qui sont en recherche d'eux-mêmes. Pour le plus jeune fils, ses modèles que sont son père et son grand frère se brisent. C'est un film donc sur les relations familiales, les relations humaines, avec quelques scènes réussies, mais aussi par moments une certaine mollesse. Moi, j'ai fini quand même par m'ennuyer et par plus être très passionnée par tout ce qui leur arrivait. Voilà, j'ai aussi une petite réserve sur Vincent Lacoste, que j'adore, mais qui fait du Vincent Lacoste. Je trouve qu'il ne sort pas du tout de son registre, un peu nonchalant, un peu faussement vantard. Voilà, donc bon, film sympathique, mais qui n'est pas du tout l'un de mes coups de cœur du mois. Je vois qu'Adrien boue et qu'il va me contredire.
Non, j'ai bien aimé. Sur le moment, en fait, j'ai passé un bon moment. C'est assez cynique, assez drôle. La première scène avec Poulvorde dans le cercueil, ça m'a beaucoup, beaucoup fait rire. Mais je me rends compte qu'avec le temps, j'ai tout oublié du film. Du coup, en réécoutant la bande-annonce, je vois, revois quelques moments de bravoure, comme la scène d'enterrement du frère, ou la lettre de refus à l'éditeur et Vincent Lacoste qui va engueuler l'éditeur parce qu'il a refusé le manuscrit de son père, et aussi la scène de lecture de Benoît Poulvorde dans la librairie où il se prend totalement la honte, où c'est très très malaisant. Ça rappelle le film d'Olivier Assayas, Double Vie, aussi, qui se passait dans le même milieu littéraire, et voilà,
sorti
quoi,
ça
se passe dans un certain milieu parisien où on n'a pas de problème de fin de mois et où c'est vraiment des problèmes de riches. Mais quand c'est un film film de Pascal Bonitzer, ça m'intéresse beaucoup ce milieu-là. J'adore même que ce milieu-là soit filmé. Mais là, il y a un peu une noirceur cynique, désagréable, quoi. C'est pas un film de tout repos. Mais néanmoins, j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment. Mais voilà, je m'en souviens plus, quoi.
On va vous donner énormément envie d'aller le voir avec tout ça. En tout cas, donc c'est Deux fils de Félix Moati que j'ai vu programmer dans les dernières dates au cinéma Le Clos d'Autran dans le Vercors, si vous voulez monter voir le film, si vous êtes déjà sur le plateau. Sinon, à guetter dans les films de l'agglomération grenobloise. On enchaîne avec encore un film français, il y en a beaucoup ce mois-ci. Premier film aussi d'Antonin Baudry, il s'agit du Chant du Loup.
C'est quoi la guerre acoustique? C'est dangereux?
Ok, j'ai peut-être quelque chose dans la trace. Du 4 temps.
Il n'y a pas de sous-marin à 4 pales.
Je sais.
Le rendez-vous avec les nageurs, là, c'est oui ou c'est non?
Le Chant du Loup. Elle nous a détecté, second.
Poste de combat, tu diffuses.
On doit récupérer les nageurs, c'est la mission.
Trois splashes au sonar!
Je trouve ce que c'est.
On est au niveau d'alerte 6. Grand Jean, vous passez commandant de sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Vous prenez l'effroyable.
Gardez-vous!
Dorsey, vous passez commandant du Titane. Pour commencer, vous escorterez l'effroyable jusqu'à ce qu'il soit dilué dans la mer gelée.
Une attaque majeure est en cours sur le sol français.
Le président de la République me commande d'effectuer une frappe en riposte.
Nous avons été pris au piège.
J'ai passé ma vie à apprendre à des gamins à faire confiance à un système. Il faudrait que je neutralise ces gamins.
C'est nos frères en face, là.
C'est pas nos frères, ce sont des marins sous ordre de tir.
On n'a plus le choix.
Il est là.
Le Chant du Loup, c'est le premier film d'Antonin Baudry qui a été diplomate dans le gouvernement de Villepin, qui avait été scénariste de Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier. Bon, on comprend pourquoi, puisque c'était inspiré du gouvernement de Villepin. Antonin Baudry, ici, donc place son intrigue dans le milieu des sous-mariniers, donc de la marine française. Il connaît bien les différentes procédures officielles puisqu'il a travaillé au ministère. Donc, a priori, tout ce qu'il dit des opérations menées par ces sous-marins, des procédures, des ordres donnés par le président de la République, par exemple, a priori, tout ça est plutôt juste. Voilà, maintenant, donc pour vous résumer l'intrigue, qui est un petit peu compliquée à comprendre peut-être, c'est centré sur un jeune homme, François Civil, dont on a parlé tout à l'heure, qui incarne le personnage donc, et qu'on voit beaucoup actuellement dans le cinéma français, qui est Oreille d'Or, ça existe vraiment dans le milieu des sous-marins aussi, donc doit écouter les bruits environnant le sous-marin pour essayer de deviner ce que c'est. Est-ce que c'est un orque? Est-ce que c'est un autre sous-marin? Quel type de sous-marin? Parce qu'il n'y a pas de hublot dans un sous-marin, donc tout se fait vraiment au son. Donc tout ça, apparemment, c'est réel. Après, moi, j'ai eu un petit peu plus de mal sur l'intrigue qui, donc, apparemment, tournerait autour de l'attaque nucléaire des Russes, puisqu'on est dans le présent ou dans un futur proche, on va dire, où on se retrouvera en guerre contre les Russes. Je ne vous donne pas la chute de l'histoire parce qu'il y a des rebondissements politiques, mais Jean-Pierre la donnera bien sûr, ainsi que la fin, et vous saurez qui meurt et qui ne meurt pas.
Ils meurent tous.
En tout cas, donc, le président de la République donne l'ordre de stopper cette attaque sous-marine. Bon, il y a ordre et contre-ordre, c'est pareil, je vous passe les détails. J'ai trouvé ça assez haletant parce qu'on se demande vraiment comment tout va se terminer, comment ils vont s'en sortir, mais en même temps, il y a pas mal de choses que j'ai pas trouvé très crédibles. Alors peut-être que ça l'est, je sais pas. Imaginez qu'on soit de nouveau en guerre contre les Russes, je sais pas. Ça m'a paru un peu bizarre. Voir Omar Sy, Reda Kateb, Mathieu Kassovitz dans ces rôles de commandant ou je sais plus exactement les titres de chacun. Bon, c'est pareil, j'ai pas trouvé ça très crédible non plus. C'est des acteurs qu'on voit beaucoup dans le cinéma français aujourd'hui et qu'on associe peut-être trop à d'autres types de personnages, je sais pas. Mais bon, j'ai passé un bon moment. Je dois quand même le reconnaître, mais j'ai quelques réserves. Adrien ou Jean-Pierre? Jean-Pierre. Allez.
Oui, moi j'ai trouvé que c'était un très bon film de politique fiction, c'était un bon suspense, assez étonnant dans le cinéma français, hein, qui aborde en général pas ce genre de sujet, mais qui a été très abordé dans le cinéma américain, comme bien sûr le Docteur Folamour de Kubrick, ou Felsef de Sidney Lumet, ou encore War Game, c'est-à-dire est-ce que la guerre va éclater vraiment, parce qu'on en est tout à fait au bord. Alors effectivement, il y a un très bon suspense, maintenant il y a quelques détails qui achoppent quand même, il y a des scènes qui se télescopent un petit peu trop brutalement, là il y a un problème de temps dans ce film, je trouve, qui marche pas vraiment, quoi. Mais quand même, encore une fois, pour le cinéma français, c'est très bien d'avoir fait ce film où on voit effectivement comment fonctionnent les sous-marins, comment fonctionne la force de frappe, etc., les rapports entre les équipages qui partent au loin, puis après qui n'ont plus aucun contact avec le président qui est le seul à donner les ordres. Donc c'est un film, malgré ses maladresses, malgré qu'il ne vaille pas à Kursk, dont on a parlé très récemment, c'est incontestablement un film à voir, on passe un bon moment.
Un réalisateur
et puis, après,
à suivre, donc,
la critique
Baudry,
peut venir un petit peu
du
après.
Du
voilà.
Merci Jean-Pierre. Adrien,
c'est un film que j'ai adoré, j'ai pris énormément de plaisir, j'ai juste une réserve, c'est par rapport à la musique. Je trouve que pour un film sur l'écoute, il y a beaucoup trop de musique de grand spectacle, et je pense que la tension aurait été plus forte si la musique avait été moins utilisée en off. Sinon j'ai adoré. Je sais qu'on a beaucoup reproché au film le personnage de Paul Habir en libraire, mais moi je l'ai beaucoup aimé.
J'étais en train de me dire qu'on n'en avait pas parlé, que c'était une de mes grosses critiques sur le film.
Aussi, vous reprochez au fait qu'on voit beaucoup Omar Sy, Mathieu Kassovitz et Reda Kateb, mais c'est quand même trois des meilleurs acteurs français. Et les militaires, c'est des gens normaux, quoi. Enfin, voilà. Et du coup, il y a bien souvent la femme qui les attend au port. Et quand on les voit dans le civil, on n'a pas l'impression que c'est des surhommes qui vont avoir des enjeux aussi importants entre leurs mains. Et aussi, il y a une question très intéressante dans ce film, c'est par rapport au nombre de victimes. Quoi. Est-ce qu'il faut faire combien de victimes dans son camp il faut faire pour protéger les civils? Et ça, c'est quand même une question philosophique intéressante, bon, qui est juste effleurée. Mais voilà, ça m'a beaucoup plu quand même. C'est très bien monté, très bien joué. C'est un film très impressionnant. Par contre, des fois, quand ils parlent à leur supérieur hiérarchique, c'est pas très, très réaliste. Quoi. Quand Omar Sy envoie chier Mathieu Kassovitz, à un moment donné, on se dit, oulala, ça, dans l'armée, ça fait pas très militaire, ça fait pas très ordonné. Mais sinon, c'est quand même un film très impressionnant, très beau. Bon, aussi, il y a une scène ridicule, c'est Reda Kateb avec le lance-roquette au début. Mais sinon, c'est quand même très convenable et c'est un film très familial, quoi. Du coup, à partir de 12-13 ans, aller le voir en famille, c'est assez anxiogène, mais c'est très beau.
Adrien vous dit une chose et son contraire. Donc, allez voir un film très anxiogène avec vos petits-enfants.
Bah oui, mais non, j'ai dit à partir de 12-13
Omar Sy et Reda Kateb sont très, très convaincants, mais quand même complètement ridicules dans deux scènes. Et la pauvre Paula Bert, elle est là dans une intrigue sentimentale qui arrive comme un cheveu sur la soupe, qui ne sert à rien. C'était juste pour mettre une jolie fille, une petite histoire d'amour là-dedans. Mais bon, là, je deviens très négative alors que je ne le suis pas tant ça sur ce film.
J'approuve Caroline entièrement.
Vous êtes dure avec moi quand même.
Donc, Le Chant du Loup d'Antonin Baudry est diffusé au Pathé et à la Nef. Allez, on change de pays cette fois avec un film allemand, français, turc et luxembourgeois, mais qui se passe en Turquie. C'est Sibel de Sagla Zentirki et Guillaume Giovannetti.
Allah rahmet eylesin. Aynur da seni kızlarla yapayalnız bırakın.
Yalnız falan değilim ben. Sibel var yanımda.
Sibel mi ben değil ne? Islık değil. Sen ben anlıyor.
Sakın bir daha yanıma yaklaşma. Çocuklarım da senin gibi olur maazallah.
Hala kurdun peşindesin değil mi? Ormana gitme bir daha sen.
Bu herif vatana millete zararlı bir terörist. Üstelik silahlı.
Niye konuşmuyorsun? Korkuyor musun? Kemik nasıl söyleniyor?
Si Belle. C'est le troisième long métrage du couple franco-turc, couple de réalisateurs Saglab Zentirki et Guillaume Giovannetti, à qui l'on devait le très beau Nour, qui s'intéressait à un personnage de transsexuel. Ici, l'héroïne Cybelle est une jeune femme de 25 ans qui vit avec son père et sa sœur dans un village isolé des montagnes de la mer Noire en Turquie. Elle est muette, mais elle communique grâce à une langue sifflée. Alors, c'est vrai qu'en voyant le film, je me suis dit, mais comment ils peuvent la comprendre? C'est pas très crédible. Ben, en fait, si, parce que c'est vraiment le cas d'un village en Turquie que les deux réalisateurs ont découvert, dans lequel cette langue sifflée est pratiquée. Et elle essaye vraiment de reproduire les articulations du turc, de la langue turque, quoi. Donc, voilà, pourquoi pas. C'est un film assez lent, assez contemplatif, qui est très centré sur cette fille, qui tient, je trouve, grâce à la présence assez magnétique de l'actrice, Damla Sönmez, si je prononce bien son nom. Elle est vraiment très jolie, elle a un regard magnifique. C'est une espèce de sauvageonne. Le fait qu'elle soit muette semble la mettre un petit peu à part dans la société. Au lieu d'être promise à un mariage forcé comme toutes les filles du village, eh bien elle, son père la laisse vivre libre et elle passe son temps dans les bois avec son fusil à traquer le loup. Dont, oui, je ne dirais pas plus de choses que ça. Après, évidemment, il y a un ou deux fils d'intrigue supplémentaires qui vont arriver en cours de film et que je ne vous dévoile pas. Mais bon, voilà, c'est vraiment centré sur cette jeune fille et ses errances dans les bois. J'ai trouvé que c'était un peu dommage que la question des mariages arrangés ne soit pas plus développée que ça, parce que c'est l'un des fils d'intrigue de ce film, et largement mieux traité dans Mustang, hein, par exemple, en film turc. Mais bon, c'est pas désagréable, mais on s'ennuie un peu. Voilà. Jean-Pierre.
Ben écoute, je vais un peu te contredire et dire ce qui se passe quand même, parce que cette fille rencontre quand même un fugitif qui est dans les bois. On ne sait pas exactement qui il est. Est-ce que c'est un terroriste? Est-ce que c'est un déserteur? On ne sait pas, qui est traqué par la police. Mais ça concerne quand même l'essentiel de la thématique du film, qui autrement aurait été simplement un documentaire sur cette fille, qui est effectivement un personnage intéressant, parce que à cause de la manière dont elle s'exprime, ce sifflet que tout le village comprend, paraît-il, même si on le voit pas très bien dans ce film. Moi, j'ai trouvé que c'est un film lent, effectivement, mais assez beau. La nature sauvage qu'on s'attend pas à trouver en Turquie, d'ailleurs, parce que c'est une région qui est en général pas filmée. Est très bien rendu avec la présence de cette sauvageonne. C'est un petit peu l'enfant sauvage de Truffaut, mais oui. Enfin en femme. Donc c'est un film agréable, qui, il y a des obscurités, il y a des scènes qui passent un peu vite, mais c'est incontestablement à voir pour moi.
L'intrigue avec le fugitif n'est pas très aboutie, puisque tu en as parlé, que tu as révélé sa présence. Bah. Donc, on a parlé du Chant du Loup juste avant. Eh bien là, c'est pour le coup un film où le loup est traqué, mais on ne l'entendra pas chanter. C'est Cybelle, donc, de Sagla Zendirki et Guillaume Giovannetti, qui passe au cinéma Le Club. Le film suivant est un film américain. Je crois que c'est le premier film américain dont nous parlons cette fois. C'est Apprenti parent, la comédie de Sean Anders.
Qu'est-ce que vous allez faire de cinq chambres? Vous aurez jamais d'enfants?
Attends, c'est quoi cette tête-là?
Non. Je ne fais aucune tête.
T'es justement en train de la faire.
Non, pas de tête.
Bonne dispute, les amoureux.
Il y a plein d'enfants à adopter. J'ai trouvé une agence qui organise une réunion à l'intention
des... Non, ne montre pas ça. Tu veux me démolir? Je rentre à peine du boulot.
On a trouvé une fille qui pourrait convenir. Les gens se sauvent en courant si on leur parle d'adolescents.
Ils se droguent et passent leur temps à regarder des gens jouer aux jeux vidéo sur YouTube.
Salut. Juste pour info, on entend tout ce que vous dites. Hein? Mais pas de soucis, allez discuter avec les petits. Surtout, ne vous en faites pas pour nous. Bye bye.
Elle est plutôt cool. Elle a un frère et une sœur qui sont plus jeunes, Juan et Lita.
Trois gosses? C'est trop. Pourquoi vous nous montrez ça? Comment vous voulez qu'on dise non maintenant?
Entrez, venez visiter.
Faites comme chez vous. Je ne dis pas qu'on est des parents parfaits. On doit les embrasser avant qu'ils s'endorment.
Comment sais-je
quoi? Vous prenez trop la tête.
Mais je crois qu'on a la fibre parentale. Oh non! Vous êtes sûr?
Rappelez-vous bien que ça ne va pas être facile.
Maman?
Coucou, chérie.
C'est du marqueur. T'en as pour une bonne semaine.
Oh, zut.
Ces enfants vont tester vos limites.
J'ai fait au moins 150 parties de Candyland avec Lita. Vous avez déjà joué à Candyland? C'est violent.
Je confirme.
Ils appuieront précisément là où ça fait mal.
On aurait dû prendre un bébé qui n'a pas d'opinion et qui se balade pas en string. C'est quoi cette tenue? Désolée de pas m'habiller en vieille ringarde comme toi.
Hey!
C'est du vrai cachemire d'abord. Je m'habille comme une vieille ringarde?
Non.
Espèce de fausse maman!
Avec un peu de stabilité et d'amour, ces enfants vont s'épanouir.
Je vais te la réparer. Regarde, elle est toute belle.
Merci, papa.
C'est mon premier papa.
C'est dégueulasse.
Tu te rends compte?
Moi, j'ai pas droit, hein? Moi. À Attends, chaton, tu veux que je t'aide?
Non.
Apprenti parent, donc, septième film de Sean Anders, réalisateur américain qui l'on doit surtout des comédies familiales, et c'en est encore une, qui s'inspire directement de sa vie, puisqu'il a lui-même, avec sa femme, adopté trois enfants, trois pour le prix d'un, trois frères et sœurs. Après Pupille, notre film français sur l'adoption, réalisé de manière quasi documentaire, là on a vraiment l'impression d'une comédie à l'américaine, un peu loufoque, avec des situations parfois un peu grossières, mais qui font quand même bien rire, il faut l'avouer. Sauf que apparemment, c'est pas si loufoque que ça. Et aux États-Unis, l'adoption se passe dans les grandes lignes comme dans le film. Alors c'est un peu surprenant parce qu'on a une espèce de foire à l'enfant, quoi. Vous venez choisir votre enfant dans une grande fête organisée dehors et vous dites tiens le petit blond là, il a l'air mignon. Je vais vous prendre celui-ci là, puis vous m'en mettrez un, oh, un petit ado là de 16 ans. Ça paraît vraiment très bizarre et je pense pas que ça se passe précisément comme ça. Mais apparemment, l'adoption est quand même un petit peu plus simple qu'en France. En tout cas, on voit comment on peut passer de famille d'accueil à parents, donc en adoptant les enfants qu'on a accueillis en tant que famille d'accueil. C'est ce que font donc les personnages interprétés par Mark Wahlberg et Rose Byrne. Moi, je les ai trouvés plutôt bons tous les deux et j'avoue que j'ai quand même ri parfois devant ce film qui, oui, d'accord, reste quand même une comédie avec des grosses ficelles. Je suis sûre que Florence l'a détesté. Donc tout en vous disant que j'ai ri, je me prépare à me faire contrecarrer. Florence.
Mais en même temps, je trouve que le générique ne ment absolument pas. Donc quand on voit le générique, la bande-annonce, on comprend tout de suite ce qu'on va aller voir et c'est extrêmement fidèle à la bande-annonce. Donc si la bande-annonce vous a fait rire et vous a plu, vous allez aimer ce film. Après, bon... Du coup, je m'étais préparée, on va dire. Donc, c'est un film gentillé. C'est un peu à la Mrs. Doubtfire où ça va être peu nié tout le long avec des musiques lourdes pour appuyer tous les propos, etc. Mais en même temps, ça fonctionne bien. C'est très lisse. Tout est bien ficelé, on va dire. Enfin, très classique, sans surprise. Mais voilà, on passe un moment... un bon moment, au sens où, voilà, si on veut pas trop se prendre la tête, c'est bien.
Et là, vous pouvez emmener vos enfants, il n'y a aucun problème. C'est plein
pas
de bons sentiments, tout finit bien, je ne vous le cache pas. Donc c'est Apprenti parent de Sean Anders, que vous pouvez voir au Cirex ou au Pathé. Allez, on finit en fait avec une série de films américains, là, et la grosse sortie de ces dernières semaines, Alita Battle Angel de Robert Rodriguez.
Ça te dérange que je ne sois pas tout à fait humaine?
Tu es la fille la plus humaine que j'ai jamais rencontrée.
Je t'avais demandé de rentrer avant qu'il fasse nuit.
J'ai pas vu le temps passer.
Alita, il faut que tu sois responsable. Tu es quelqu'un d'unique.
Hé, toi!
Tu n'es pas une fille comme les autres.
Quoi, il y a un problème?
Tu te souviens pas?
De quoi tu parles?
Ido t'a trouvé dans la décharge. Donc t'as dû tomber de là-haut.
C'est que je vaux pas grand-chose, alors?
Ça, c'est ce qu'ils veulent te faire croire.
Non! Je suis pas ta fille. Je sais pas ce que je suis.
Moi, je le sais. Tu es l'arme la plus sophistiquée de tous les temps. Mais ce n'est qu'une enveloppe. Ni bonne, ni mauvaise. Ça ne dépend que de toi.
Je ne reste pas passive. En présence du mal.
Elle menace l'ordre naturel des choses. Ce soir, on ne joue pas. On chasse. Je veux que vous éliminiez cette fille qu'on appelle Alita.
Là aussi, on a l'impression d'avoir compris tout le film avec la bande-annonce. Donc, c'est Alita Battle Angel de Robert Rodriguez, film de commande, puisque c'est James Cameron qui est à l'origine du projet de l'adaptation du célèbre manga Gun, écrit par Yukito Kishiro, qui comporte 9 tomes de plus de 200 pages chacun. On est dans un monde post-apocalyptique au 26e siècle, et le monde donc se divise en deux parties. Une partie très crasseuse, ultra-violente, avec tous les laissés pour compte. Et puis une partie très florissante où tout va bien. Le manga et le film se passent plutôt dans la partie délabrée, dans laquelle un personnage donc, qui est un savant, je ne sais plus exactement, hein, trouve cette jeune fille et la baptise Alita dans le film. C'était Gali dans le manga. Il se demande donc, l'une des questions du film, c'est est-elle humaine, est-elle un robot, puisqu'on est dans un univers où, je ne l'ai pas précisé, mais où beaucoup d'humains ont été remplacés par des cyborgs dotés d'un cerveau humain. Voilà, donc film de science-fiction, film d'action, film peut-être avec un fond philosophique aussi, qui a coûté 200 millions de dollars. Alors, Jean-Pierre et Adrien, est-ce réussi ? Jean-Pierre ?
C'est assez réussi, mais si on peut faire un reproche à ce film, c'est qu'on l'a déjà vu par petits bouts dans des tas d'autres films. Quoi. Il y a une décharge où on trouve des robots. On voit ça dans Wall-E, par exemple, ce magnifique film d'animation. Il y a la cité supérieure qui plane au-dessus de la ville. On voit ça dans certains autres films. Il y a le robot qui devient peu à peu humain, comme dans Ghost in the Shell. Il y a un jeu hyper violent qui s'appelle le Motorball, qu'on a vu dans Rollerball. Bref, je veux dire, c'est typique du manga, c'est-à-dire c'est un film qui est fait avec des petits bouts de choses qu'on a vues par ailleurs. Ceci dit, c'est très agréable à voir. L'humanisation progressive du robot qui devient un peu à peu humaine, effectivement, on l'a vu dans Ghost in the Shell, par exemple, mais c'est assez bien foutu. Peut-être que le film ne rend pas compte de la somme qu'il a coûté, parce que c'est parfois un peu pauvre, la fameuse ville qui rappelle un peu Bombay, qui est très très brouillée et bruyante et bruyante. On voit qu'un seul petit quartier, quoi. C'est un petit peu dommage. On sent qu'il va y avoir une suite, hein, où peut-être on ira dans la cité qui plafonne. Mais bon, c'est pas un grand film, mais c'est un film classique de science-fiction qu'on a beaucoup vu, mais qu'on prend plaisir à revoir néanmoins.
Et à voir plutôt en 3D ou non?
Non, c'est pas la peine. La 3D, moi, je n'ai jamais vu un film qui mérite la 3D.
Adrien ?
C'est un film qui sent énormément la nostalgie, comme l'a dit Jean-Pierre. Du coup, moi, j'achetais les cassettes vidéo, manga vidéo, avec le fascicule, là, qui coûtait 79 francs à l'époque. Et du coup, j'avais eu la VHS de Gunn, l'OAV. Du coup, c'était des dessins animés, mais adaptés du manga, mais réservés uniquement au marché de la vidéo. Du coup, comme ça, les studios se faisaient plein de thunes. Et du coup, parce qu'à l'époque, c'était 129 francs la cassette vidéo de 50 minutes. Il fallait quand même les payer, c'était très cher. Et donc, c'est un film qui sent énormément la nostalgie. Et c'est bien la même époque que Ghost in the Shell. Toute cette ambiance cyberpunk-là, avec les cyborgs sont-ils des humains ou pas. Du coup, c'est un film qui m'a rappelé tellement de souvenirs. Ça faisait vraiment un effet de Madeleine de Proust. Du coup, je n'ai aucune objectivité sur ce film. J'ai adoré. Je sais que beaucoup de fans du manga et de Robert Rodriguez ont regretté qu'il n'y avait pas assez de sang et que le film soit mal adapté, mais moi j'ai trouvé le personnage de Hugo dans le manga très très bien retranscrit. J'ai trouvé Ido très bien aussi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, on peut chipoter sur quelques trucs, mais moi j'ai trouvé ça fabuleux aussi, la manière dont la ville qui grouillait était représentée. Alors c'est qu'un petit quartier de la ville et ils ont tourné ça sur un parking d'Austin dans les studios de Richard Lintalker. Du coup c'est vraiment très très intéressant et très impressionnant comme film. Les scènes de Rollerball sont vraiment géniales. Voilà, je vous conseille d'aller le voir. C'est super.
Donc c'est Alita Battle Angel de Robert Rodriguez que vous pouvez voir au Cirex ou au Pathé. On termine en vitesse parce qu'on est en retard évidemment comme d'habitude avec le dernier film de Xavier Dolan, Ma vie avec John F. Donovan.
Nous savons comment ça a commencé. Il a répondu à une de vos lettres de fan. Et à partir de là, une correspondance improbable a débuté, etc., etc. Pourquoi ne pas remonter au tout début, comment tout a commencé entre vous et John F. Donovan ?
Je venais d'avoir 11 ans. Les élèves à l'école se moquaient de moi parce que j'étais le petit nouveau.
Rupert, désolé.
Ma mère et moi ne se parlaient pratiquement plus. Tous mes rêves s'étaient envolés. Le seul qui avait survécu, c'était John.
On choisira l'impression finale, Barbara.
Ouais, mais à Noël, t'auras un poney.
Il avait tout entre les mains. Les femmes.
Merci à tous.
La gloire. L'amour.
Je suis le gars le plus chanceux sur Terre, oui.
C'est à ce moment-là que les gens ont commencé à s'interroger. Quelle était la vérité ?
J'ai écrit une lettre à John F. Donovan il y a à peu près 5 ans. C'était assez fou de ma part de penser qu'il répondrait. Mais il l'a fait. Je n'ai que 11 ans. Mais je serai comme lui un jour, et on fera des films ensemble.
Rupert, tu as fabriqué ta petite histoire.
Non, pas du tout.
Tu as menti, et tu as menti pendant des années.
J'ai juste rien dit, c'est tout.
As-tu, oui ou non, écrit des lettres à ce gosse?
Avez-vous un correspondant? Un correspondant enfant? Faites votre boulot.
Continuez.
Plus jamais tu n'écriras à cet homme à nouveau. Tu entends ce que je dis?
Pourquoi les publier maintenant?
Ça fait 12 ans. Et si ça pouvait changer les choses? Ça parle de nous, en tant que société, ce que nous voulons, ce que nous recherchons. Qu'est-ce qu'un artiste devrait révéler de lui-même? Et pourquoi est-ce que ça nous importe au juste?
Ma vie avec John F. Donovan, c'est le 7e film du prodige canadien Xavier Dolan. Je ne suis pas ironique, j'adore les films de Xavier Dolan et surtout Mommy. Alors c'est assez différent de ce qu'il a fait avant et en même temps on retrouve beaucoup de thèmes qui l'intéressent comme l'homosexualité, comme les rapports compliqués entre les mères et leurs fils. Deux histoires en fait sont montrées en parallèle et se rejoignent finalement assez peu parce que l'intrigue de départ c'est une correspondance qui s'est nouée entre un jeune garçon qui au départ à 5 ans et qui a échangé par lettre manuscrite avec la vedette de sa série télé préférée. Xavier Dolan s'est inspiré pour ça de la passion qu'il vouait à Leonardo DiCaprio hein, qui était son idole et à qui il avait écrit à 8 ans mais sa lettre lui était restée sans réponse. Donc là on y croit pas cette correspondance, peu importe. Ce qui est intéressant c'est les deux histoires individuellement. Je trouve qu'il y avait presque deux films à faire en fait, c'est peut-être ça qui est dommage. On découvre en plus tout ça de manière rétrospective par des flashbacks puisque le petit garçon devenu grand et devenu auteur donne une interview à une journaliste et c'est lui qui lui raconte tout. Ces scènes cadres sont vraiment pas indispensables je trouve. En tout cas les deux histoires sont très intéressantes et m'ont bien plu, que ce soit l'histoire du petit garçon Rupert qui veut être acteur, qui est un petit peu différent de ses copains de classe parce qu'on sent déjà qu'il est homosexuel et ça le fait rejeter des autres, sa relation à sa mère qui a du mal à accepter son projet d'être comédien, tout ça j'ai trouvé ça assez intéressant, la fascination aussi qu'il a pour ses héros de série. Et puis j'ai trouvé encore plus intéressante la deuxième destinée, celle de l'acteur de série qui est incarné par Kit Harington, donc Jon Snow dans Game of Thrones. On se dit que peut-être ça peut rappeler sa vie à lui aussi, qui est fortement associé à cette série à succès. Et là, on voit bien comment les acteurs de série comme ça sont enfermés dans leur personnage et comment leur vie privée est compliquée à côté parce qu'ils essayent de la préserver, parce qu'ils ne peuvent pas donner à voir n'importe quoi d'eux-mêmes, étant donné que la série repose sur eux et leurs personnages et que les fans ont tendance à les assimiler. Ça, c'est vraiment intéressant, touchant. Et pour ça, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, encore une fois, ce film de Xavier Dolan. Allez, Jean-Pierre, vas-y.
Non, je veux pas. C'est vrai que je suis pas un fanatique de Xavier Dolan. J'ai pensé en voyant ce film, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que effectivement, c'est assez peu crédible qu'une grande vedette de série réponde à un anonyme petit garçon de 5 ans et que cette correspondance dure 5 ans. D'ailleurs, cette correspondance se repose sur quoi? On n'en sait rien, à part la toute dernière lettre que Kit Harington dicte ou parle ou raconte en voix off, on ne sait plus trop. J'ai trouvé que c'était bien filmé, c'est bien joué, mais là on peut le dire de tous les films de Xavier Dolan. Mais à part ça, je veux dire, j'ai pas été intéressé ni par les personnages vraiment. Tu nous as fait tout un chapitre sur la vie exaltante de cette vedette de série, mais en fait on la voit pas du tout. On le voit passer de bistrot en bistrot, il est triste tout le temps, enfin on comprend pas très bien quelle est sa vie exactement, pourquoi il la chope, pourquoi il ne réussit pas, pourquoi il n'y a pas d'autre rôle, enfin bref c'est un personnage qui est comme ça une icône, mais une icône en deux dimensions qu'on comprend pas, donc il y a trop de choses qu'on comprend pas
bien,
bon
mais...
alors peut-être que j'ai dormi un petit moment, je sais pas, c'est un film assez effectivement ensommeillé ou ensommeillant qu'on peut voir, je veux pas du tout dire le descendre, dire qu'il faut l'éviter, mais j'ai pas été enchanté, quoi, c'est le moins qu'on puisse dire.
En tout cas, si on aime son style, on le retrouve ici avec une musique de variété donc omniprésente, avec des scènes un peu clip, mais qui trouvent leur justification. Voilà, j'essaye de racheter un petit peu le film après Jean-Pierre, là, mais c'est donc Ma vie avec John F. Donovan que vous pouvez voir au pâté ou au club. Jean-Pierre et Adrien avaient chacun un petit coup de cœur, alors on a assez peu de temps, mais rapidement, Adrien.
Juste Wardy, un exceptionnel film d'animation animé dans la Drôme. à aller voir sur les réfugiés palestiniens au Liban. C'est un film assez violent à partir de 10 ans, mais il faut aller le voir quand même. C'est un très très beau film.
Méliès. Et Jean-Pierre ?
Eh bien, moi, c'est Stan et Oli, un premier film de John Byrne qui évoque les dernières années, ou en tout cas le dernier spectacle de Laurel et Hardy. C'est peut-être réservé à ceux qui ont adoré Laurel et Hardy dans leurs films, qui sont magnifiques. Et mais là, c'est joué d'une manière sensationnelle par John Cerelli, qu'on connaît bien. Et puis Steve Coogan en Laurel, c'est vraiment touchant, drôle, enfin très réussi quoi.
Et à voir à la Nef, Stan et Oli. Merci à tous d'avoir été là et rendez-vous en avril.
Allez, en avril.
On vous retrouve en avril dans Ciné Quanon sur Radio Campus Grenoble. Merci de nous écouter.
Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension.
Du suspense. De l'émotion. Du cinéma, sinon rien.